Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour l'émission spéciale avec Fineco. Aujourd'hui, nous allons parler de la macro et de la finance traditionnelle qui, petit à petit, s'intéresse parfois et souvent même à la crypto. Donc, on va essayer de traiter un petit peu de tous ces sujets annexes qu'on voit pas forcément souvent passer du côté de X, mais sur lesquels, petit à petit, des comptes comme Fineco, que vous pouvez retrouver à la fois sur X, sur Substack et sur leur site Fineco, permettent de retrouver justement des informations qui, de votre côté, vous donneront la profondeur sur comment fonctionnent à la fois les marchés, mais également le monde un peu lié à la macro, à la géopolitique. Et tout ça fait que, petit à petit, on comprend un petit peu mieux justement ce modèle dans lequel évolue la finance moderne. Donc, ça faisait quelques temps qu'on ne s'était pas retrouvé. Fineco, super ravi de te retrouver.
Avec plaisir, bonjour à tous.
On part immédiatement donc avec le S&P 500. Je te propose de tout simplement avoir un certain cadrage par rapport au moment où nous nous trouvons. Et donc, je partage mon petit écran. Nous en sommes avec un marché qui aujourd'hui est haut. Nous sommes sur un ATH. Et d'ailleurs, cette semaine, on a fait un tout petit gap ici au niveau de l'analyse technique. Donc vraiment, on a un marché qui anticipe très certainement, tu me diras si je me trompe, mais aussi la baisse de taux qui devrait intervenir, je crois, mercredi sur la décision de la Fed et de Jérôme Powell. Donc peut-être qu'on a cet enthousiasme-là à court terme sur des marchés qui sont déjà très hauts, mais qui semblent d'ici la fin d'année vouloir peut-être se diriger pour le S&P 500 vers les 7000 points, sachant que au moment où nous enregistrons cette émission, nous sommes à 6875 précisément, avec une réouverture cet après-midi qui pourrait se faire au niveau du futur à 6900. On va voir ce que ça donnera. Là aussi, cette semaine est un peu particulière puisque ça rouvre à 14h30. On a pour l'instant ce petit décalage d'une heure qui sera rattrapé d'ici la semaine prochaine. Donc déjà, que t'inspire justement Fineco, ces marchés qui sont tous très hauts? On a le gold qui à court terme aussi a très certainement trouvé à minima son top local autour de 4 400 $ l'once. On est à 3 900 et des brouettes ce matin. Je vais pas vous dire de bêtises, on va vérifier ça en direct live. Il est où mon petit gold? Il est là, 3 900, c'est ça. Donc peut-être enfin un petit peu moins de défensif et un petit peu plus, on va dire, de prise de risque à venir sur les marchés. Et on espère que mercredi, en effet, la Fed va continuer de baisser les taux, d'avoir cette direction qui perdurera courant 2026 et qui pourrait permettre enfin peut-être de aussi détendre un petit peu les marchés dits à risque tels que les cryptos, qui aujourd'hui semblent assez cloisonné, hormis Bitcoin, mais on sent que c'est pas la prise de risque qui prédomine sur les marchés financiers actuellement.
Bah écoute, moi mon avis depuis un certain temps, c'est que nous en fait chez nous notre plan initial c'était que on avait ce fameux rallye qui a commencé en avril et qui priçait finalement un petit peu une sorte d'espoir que l'on avait entre la Chine et les États-Unis, que les choses se terminent bien et que l'on trouve un terrain d'entente. Au final, on se rend compte que plus on avance, plus cet espoir est un petit peu en train de se dissiper et qui va plutôt mettre, laisser place plutôt à une certaine trêve, en fait. Et c'est d'ailleurs ce qui va probablement se passer jeudi. Les Chinois et les Américains ne vont pas nécessairement s'entendre sur une paix, mais plutôt sur une trêve pendant un certain temps, le temps que les Américains mettent en place ce qu'ils doivent mettre en place et que les Chinois aussi se retournent comme il faut pour ne pas être pénalisés par cette guerre commerciale qui, il faut l'avouer, va continuer un petit peu à s'éterniser. Maintenant, le marché, ce qu'il est en train de faire et ce qui confirme un petit peu le plan que l'on avait, c'est-à-dire que d'un point de vue technique, pour nous, quand on est arrivé à 6500, 6600, pour nous, c'était le moment où on se disait il va falloir un petit peu dérisquer. Par contre, ce qu'on s'est dit également, c'est que si techniquement on pétait les 6500, 6600, psychologiquement quelque chose allait commencer un petit peu à se mettre en place et globalement on allait avoir un petit peu un certain FOMO qui allait se mettre en place du côté des hedge funds ou des côtés même des institutionnels qui ont été laissés un petit peu sur le bas-côté pendant ce rallye-là. Donc c'est un petit peu ce que tu peux voir, hein, c'est vraiment ce qui est un petit peu en train de se confirmer. Et aujourd'hui, on voit les institutionnels, et c'est le tweet d'ailleurs que j'ai fait, on voit les institutionnels qui sont hedgés de toutes parts, hein, c'est-à-dire qu'ils ont des positions short et longues en même temps, mais qui n'ont pas de biais directionnel en tête. ils vont réagir véritablement à toutes les news et à chaque bonne news, ils vont racheter évidemment leur position. Et à ce moment-là, vous avez des mouvements aussi qui sont brutaux. Mais de l'autre côté, quand il y a une mauvaise news, et bien évidemment, toutes les positions qui sont longues vont être clôturées et vous avez des mouvements brutaux à la baisse. Donc, c'est le marché dans lequel on se trouve aujourd'hui. D'accord, c'est un marché où les institutionnels ne savent pas forcément où l'on doit aller et où l'on va aller, donc ils sont complètement couverts. Et de l'autre côté, vous avez des retails qui participent de plus en plus à ce marché et qui continuent d'acheter le dip à chaque fois. Donc, on est dans un marché qui est conditionné par l'information. L'information, pour l'instant, on ne retient que les bonnes nouvelles. Les mauvaises nouvelles sont complètement mises de côté. On a pu le voir, par exemple, avec les difficultés qu'on peut voir sur le private credit, les difficultés que l'on peut voir sur le private equity, quelques alertes que l'on peut voir sur la liquidité, parce qu'il faut le dire aujourd'hui, le marché manque de liquidité, ou en tout cas, il y a une vraie question qui se pose sur l'abondance de la liquidité, en tout cas sur le marché américain, et c'est aussi pour ça que probablement Powell va arrêter le resserrement quantitatif, donc le QT. Alors, ça ne veut pas nécessairement dire qu'on va aller sur un QE. Je pense que ça va prendre plusieurs mois avant de commencer à se poser la question. Mais aujourd'hui, toutes les mauvaises news, ou en tout cas tous les signaux d'alarme, tous les signaux d'alerte sont mis de côté. On n'en tient pas rigueur parce que ce qui nous importe, c'est clairement ce qui se passe en Chine et aussi ce qui se passe d'un point de vue macroéconomique, c'est-à-dire une administration Trump qui va tout mettre en place pour qu'il y ait de la croissance. Donc vous allez me dire, OK, la croissance, elle est à 4% aujourd'hui, mais elle est à 4% aujourd'hui parce qu'elle est tirée massivement par les investissements en IA. Par contre, vous avez un marché de l'immobilier qui est à l'arrêt, vous avez une consommation des ménages qui reste au-dessus on va dire, du seuil zéro parce que les marchés font que grimper. Donc, vous avez un effet de richesse qui est important et qui permet aux particuliers de continuer à consommer, mais pas de manière normale, en fait, pas dans une économie saine où ces personnes-là gagnent un salaire assez décent pour pouvoir consommer normalement et comme ils le souhaitent. Donc, d'un point de vue macroéconomique, globalement, on ne peut pas se dire qu'on est arrivé au top. Mais d'un point de vue valorisation, on peut se dire que on arrive quand même sur des valorisations qui sont exagérées, qui sont énormes et qui peuvent faire penser qu'on arrive en fin de cycle. Mais tu vois, ce que je te disais, CM, c'est que pour moi, on arrive finalement dans une phase où le marché devient extrêmement difficile. Et en 2026, pour moi, à titre personnel, je pense que ça va être très, très, très difficile parce que vous avez des catalyseurs qui n'ont pas encore été mis en place, et je vais en parler. Et puis de l'autre côté, vous avez des catalyseurs sur lesquels on est en train de tirer. Donc, par exemple, sur l'IA, je ne dis pas que l'IA s'est terminée, bien au contraire, mais je dis juste que vous avez des news qui tombent et qui peuvent faire un petit peu tiquer. Vous avez des économies circulaires qui commencent à se mettre en place entre Nvidia, OpenAI, CoreWeave, Oracle, et j'en passe. Mais de l'autre côté, vous avez des éléments qui peuvent renforcer la croissance américaine et qui ne sont pas déclenchés, donc surtout l'immobilier. Donc comme vous le savez, l'immobilier est à l'arrêt, mais aujourd'hui, Trump et Scott Bessent, donc du coup le secrétaire au Trésor, ont été très clairs et ont dit que ça allait être la priorité de l'administration dans les semaines et mois à venir. Pourquoi? Parce que y a autre chose aussi qui fait que pour moi, c'est difficile d'estimer qu'on arrive au top de ce marché, c'est que vous avez des midterms, donc des élections de mi-mandat à gagner. Et bien évidemment, sur ce type d'élection, quand vous voyez que vous n'êtes pas très populaire, parce que c'est un petit peu ce qui se passe aujourd'hui, eh bien, l'administration Trump va devoir faire un petit peu des cadeaux à ses électeurs. Donc, globalement, des biens immobiliers un peu plus abordables. Donc, bien évidemment, l'immobilier qui est aujourd'hui coincé parce que les prix des biens sont trop, trop, trop chers. Donc, aujourd'hui, potentiellement, on peut avoir une urgence nationale déclarée sur l'immobilier. C'est ce qui est d'ailleurs probablement en cours et c'est ce qui a d'ailleurs été déclaré de la part de Scott Bessent il y a un mois et demi. Donc, vous avez ça, vous avez aussi des manœuvres pour faire en sorte que les taux directeurs baissent et chutent. Donc j'avais fait plusieurs tweets sur ça, mais globalement, vous avez encore des éléments qui font que l'immobilier doit être un nouveau catalyseur pour les marchés financiers et pour la croissance américaine. Ça, c'est le premier truc. Et puis le deuxième truc, celui-là, il est un peu plus spéculatif, mais qui montre à quel point, pour moi, on n'a toujours pas atteint l'euphorie sur ce marché. Et plutôt, on est plutôt dans une zone où, en fait, on continue à faire grimper ce marché parce qu'il y a trop de leviers. L'autre élément, c'est les SPAC. Donc les SPAC, c'est des produits qui existent, enfin, en tout cas, qui ont fait parler d'eux en 2021, mais globalement, ce sont des boîtes que l'on cote en bourse et qui, en fait, font des levées de fonds. Donc, ces sociétés-là, en fait, n'ont que du cash à l'intérieur. Et ces sociétés, leur but, c'est de fusionner avec des sociétés qui ne sont pas encore cotées en bourse. D'accord? Et donc, en clair, c'est une solution alternative aux IPO. Sauf que ces produits-là reviennent vraiment à la mode cette année, surtout par le biais de Trump, qui en a deux, trois, à son nom, entre guillemets, ou en tout cas au nom de ses conseillers. Et pour vous dire un petit peu une anecdote, en 2021, il y avait plus de 4 000 ou 5 000 SPAC qui étaient cotés en bourse sur le Nasdaq. Et derrière, ça a créé une fameuse bulle. Et la bulle, en fait, a été atteinte lorsque la société de Trump a fusionné avec un SPAC. D'accord? Et ce fameux SPAC-là avait fait plus de 1 500 % en 2 jours sur le Nasdaq. Donc, et d'ailleurs, aujourd'hui, ce fameux SPAC, c'est le Trump Media, donc la société de Trump qui est cotée en bourse. Donc, cette euphorie-là, on le voit toujours pas. Et le SPAC, pour moi, c'est un petit peu le summum de l'euphorie, parce que c'est globalement un peu l'équivalent des altcoins, si vous voulez, mais pour les marchés traditionnels. Donc, pour revenir un petit peu au S&P, vous avez des marchés qui continuent de grimper, mais de l'autre côté, vous avez une macro qui ne demande qu'à être amélioré et qui peut être amélioré avec des éléments du côté de l'administration Trump, mais aussi du côté de la Fed qui doit encore baisser ses taux. Et pour revenir justement à la Fed, pour l'instant, donc parce qu'il va parler mercredi, pour l'instant, on ne baisse pas les taux pour des mauvaises raisons. Toutes les baisses qui ont eu lieu ont eu lieu parce que la Fed n'est pas en retard, mais aussi parce qu'elle essaye un petit peu de gagner du temps et d'anticiper potentiellement une dégradation macroéconomique. Donc aujourd'hui, Powell, à mes yeux, n'est pas en retard. Alors, il est toujours sur cette fameuse langue de bois, mais globalement, on est face à un Powell qui essaye de gagner du temps, qui veut anticiper les futures données et qui ne veut absolument pas inquiéter les marchés sur une certaine dégradation de la liquidité et même des conditions financières pour le crédit en tout cas. Donc c'est un petit peu le topo qu'on peut faire aujourd'hui. Mais globalement, moi quand je vois ce marché et quand je prends un petit peu la photo globale, j'ai du mal à croire qu'on arrive à un top, mais il est évident qu'on n'est pas du tout au début d'un bull market. Et il faut en être vraiment conscient, d'où la difficulté de 2026.
Et au niveau justement de ce qui pourrait être problématique pour 2026 au niveau des marchés, est-ce que tu ne penses pas que la Fed, ils vont être confrontés justement à cette problématique d'avoir une inflation collante et peut-être qui pourrait même rebondir? Et le deuxième sujet, c'est les tarifs de Trump qui, on le voit avec la Chine pour l'instant, voilà, hein, c'est pour un pas en avant, deux pas en arrière. On ne sait pas trop à quoi s'attendre concrètement. Et l'autre truc, c'est que si j'ai bien compris, 2025, l'immensité des entreprises, la plupart, ont absorbé tout simplement le delta qu'il pouvait y avoir par rapport à ces tarifs, puisqu'il ne faut pas croire que ça fonctionne que dans un seul sens. Et aujourd'hui, là, pour 2026, on pourrait voir tout simplement le consommateur américain qui serait impacté via ces entreprises qui viendraient répercuter les droits de douane directement sur le consommateur final. Et ça pourrait gripper justement courant 2026, une économie qui certes est drivée très largement par la technologie, l'IA, comme tu disais, cette économie circulaire qu'on voit beaucoup discuter ces temps-ci sur les réseaux sociaux, mais qui finalement est du cash qui tourne un peu en circuit fermé, et surtout c'est du cash sur lequel il y a beaucoup d'espoir pour le futur. On n'est pas dans la réalité du terrain immédiat quelque part. Voilà, est-ce qu'on va pas avoir la collusion de ces deux mondes avec un monde réel qui, bah, comme tu dis, peut se dégrader bien plus vite qu'on ne le pense, et un monde financier slash tech slash IA qui aujourd'hui a l'air plus que jamais déconnecté de la réalité.
Exactement. Bah, tu sais, la question qui est vraiment importante que tu me poses, c'est par rapport à l'inflation. Aujourd'hui, quand on regarde un petit peu les données de l'inflation, il y a deux choses qui frappent. La première chose, comme tu l'as dit, c'est que pour l'instant, les droits de douane n'ont pas d'effet sur les données. Et bien évidemment, c'est parce que les sociétés ont importé massivement depuis novembre dernier. Et derrière, bien évidemment, sont en train un petit peu d'absorber tous les coûts. Mais à un moment donné, ces stocks vont arriver à leur terme. Donc, la vraie question qui va se poser en 2026, c'est quel effet allons-nous voir sur l'inflation et bien évidemment, que vont faire les sociétés lorsqu'elles n'auront plus de stock. Donc, en 2026, logiquement, on devrait voir un impact. Mais l'autre élément, et qui pour moi est plus important, c'est que aujourd'hui, ce qui fait que l'inflation reste au-delà des 3%, c'est surtout le logement. Le logement, c'est 35% du calcul. Et aujourd'hui, comme tu le sais et comme je l'ai dit, l'immobilier est à l'arrêt. Donc, si l'immobilier est à l'arrêt, les loyers, eux, ne font que grimper parce que les gens n'ont plus accès aux achats de biens immobiliers. Donc, c'est pour ça que pour moi, le sujet de l'immobilier est extrêmement important parce qu'il va faire d'une pierre deux coups. Si Trump réussit à faire en sorte que les promoteurs, enfin les constructeurs immobiliers construisent à nouveau des biens immobiliers à fond, mais de l'autre côté font en sorte que les taux baissent, mais aussi, et ça c'est via un tweet que j'avais expliqué, qu'en réalité les sociétés comme Fannie Mae et Freddie Mac rachètent des MBS, mais vraiment, encore une fois, il faut aller sur le tweet que j'ai fait, c'est très long à expliquer, mais globalement, l'administration Trump a les cartes en main pour relancer le marché immobilier. S'il relance le marché immobilier, ça va apporter de la croissance, parce qu'évidemment, l'immobilier, c'est 20% du PIB américain. Et de l'autre côté, comme je te l'ai expliqué, les loyers vont baisser parce que les gens, au lieu d'aller louer des biens, ils vont se précipiter sur le marché immobilier pour acheter leurs propres biens. Donc, du coup, tu vas réduire, entre guillemets, l'inflation, et de l'autre côté, tu vas apporter de la croissance à ton pays. Donc, aujourd'hui, les vraies questions qu'il faut se poser, c'est qu'est-ce qu'ils vont faire sur ce marché de l'immobilier-là ? C'est pour moi le plus important. Ensuite, par rapport aux droits de douane, aujourd'hui, moi, je suis un petit peu conscient d'une chose, et j'avais fait un tweet d'ailleurs par rapport à ça il y a quelques jours, c'est que Trump a nommé quelqu'un, une personne très proche à la tête de la BLS, donc c'est l'organisme qui est responsable des données macroéconomiques, en tout cas les plus connues, hein, c'est-à-dire l'inflation, le chômage et autres. Et cette personne-là, on se doute bien que on n'est pas dans la diffamation ni dans l'accusation, mais globalement les données ne reflètent pas forcément la réalité d'aujourd'hui. Donc, est-ce qu'un jour dans les données on verra l'impact des droits de douane? J'espère qu'on le verra parce que ils ont réellement un impact, mais la question c'est de savoir si vraiment ils vont jouer dans les règles. Et ça c'est un autre sujet. Mais au-delà de ça, vraiment, ce qui m'importe et qui, pour moi, sera le vrai déterminant pour l'inflation en 2026, c'est l'immobilier. Donc, c'est le sujet à aller surveiller. Et bien évidemment, c'est là où on peut trouver des opportunités sur les marchés financiers américains.
Et tu penses qu'on pourrait en venir, pas forcément voilà, un scénario similaire au subprime, mais à quelque chose qui, justement, par rapport à l'immobilier en tant que tel, serait vraiment problématique pour les États-Unis. Je crois avoir vu passer justement récemment que le terme, tu sais, de recherche crédit défaut, mortgage, etc., par rapport aux États-Unis, était vraiment... en pleine bourre, quoi. On avait beaucoup, beaucoup de ménages qui commençaient à s'inquiéter. Donc, est-ce qu'on pourrait en venir à une situation, justement, qui serait plus dégradée que ce qu'on le pense par rapport à l'immobilier US?
Alors, pour l'immobilier US, moi, encore une fois, je pense qu'on n'est pas dans la situation dans laquelle on s'est trouvé en 2008. Il y a beaucoup de garde-fous aujourd'hui, même si Trump est en train d'essayer un petit peu de supprimer quelques garde-fous. Une crise à la 2008 sur l'immobilier, j'ai énormément de mal à y croire. Par contre, aujourd'hui, ce dont on entend beaucoup parler, c'est bien évidemment c'est les crédits subprime, mais sur l'automobile. Donc sur l'automobile, je ne sais pas si tu as vu, mais il y a trois sociétés qui fournissent des établissements de crédit, mais pour l'automobile, il y en a trois qui ont fait faillite. Donc c'est Primaland, Tricolor et First Brands. Le truc, c'est que ce marché-là, même s'il y a beaucoup de cadavres entre guillemets et que je pense qu'on n'a pas fini encore d'en entendre parler, le marché il est très petit. Enfin, en tout cas, il est beaucoup plus petit que celui des subprimes en 2008 et il est vraiment limité à certains acteurs. Donc, je pense pas qu'on aura un truc à la 2008 sur ce secteur-là. Par contre, pour l'immobilier, encore une fois, moi, je pense qu'on est au stade où ça commence un petit peu à se tendre parce que les prix sont trop élevés. On arrive pour l'instant à faire en sorte que le marché de l'immobilier se stabilise. Mais encore une fois, il n'y a plus de construction et il n'y a plus d'achat. Donc, vous avez un truc qui est au point mort. Il est évident, et là, c'est là où je vais répondre à ta question, il est évident que si l'administration Trump ne réagit pas dans les 3 à 6 mois pour l'immobilier, quelque chose ne va pas très bien se passer. Mais le marché n'en tient pas rigueur parce qu'il y a eu beaucoup de déclarations par rapport à cela, et je pense, moi, à titre personnel, et si tu veux, on en reparlera quand on se refera un nouveau topo, je pense, moi, par exemple, que les taux de 10 ans américains vont aller sous les 3,5 dans pas longtemps. Voilà. Ça, c'est mon avis personnel, et que le marché de l'immobilier va vraiment détendre et que l'on aura une reprise sur ce marché-là. Enfin, en tout cas, nous, chez Finico, on est positionné sur notre portefeuille en ce sens-là. Voilà. Et même moi, à titre personnel, je suis positionné vraiment avec cette conviction-là. Donc, je ne pense pas qu'on aura une crise de ce type-là en 2026. Par contre, ce que je peux vous dire, c'est que plus l'administration va déréglementer, et c'est un petit peu ce qui se passe, vous avez des déréglementations bancaires, vous allez avoir des déréglementations sur l'immobilier et des déréglementations sur d'autres secteurs, plus elle va déréglementer, plus on aura potentiellement un problème beaucoup plus grave, mais lorsque de nouvelles administrations vont se présenter, donc lorsque un nouveau président va arriver avec une nouvelle politique qui est un petit peu contraire à celle que l'on voit aujourd'hui du côté de Trump. Donc je pense qu'on décale plutôt le problème plutôt que de voir quelque chose qui sera dramatique demain.
Voilà. Rappelons également que 2026, novembre, si je dis toujours pas de bêtises, ça sera les midterms de Donald Trump, donc une échéance importante à la fois pour le côté politique et d'un point de vue purement statistique ce coup-ci, la plupart du temps, c'est pas l'année la plus glorieuse, l'année des midterms, peu importe le président. Donc c'est aussi à prendre en considération. Et c'est vrai que là où c'est intéressant, comme tu dis, par rapport au taux, et notamment le 10 ans qui est affiché ici à l'écran, n'oubliez pas également que vous pouvez nous retrouver en podcast sur absolument toutes les plateformes, et je pense que c'est le genre d'émission qui s'y prête plutôt pas mal, en plus à pouvoir être écouté comme ça, que ça soit dans la voiture ou ailleurs. Et donc par rapport au taux, nous avons en effet des taux longs qui sont restés relativement hauts pendant longtemps, puisque même le 30 ans, on voit qu'il est encore à 4,55, on était à 5 il n'y a pas si longtemps, et on a un taux à 10 ans qui est quasiment à 4 points. Donc on a la vraie zone de décrochage qui se trouve là où passe finalement cette petite droite qu'on peut avoir ici à l'écran. Alors, ceux qui sont en podcast, justement, ne le verront pas. Mais pour vous donner une indication, la moyenne mobile 200 de ce taux à 10 ans américain passe à 3,845. Donc, on va dire, allez, 3,85. Et donc, un décrochage de cette zone, pour toi, nous conduirait, comme tu le disais à l'instant, quelque part autour de 3,5, peut-être 3, va savoir quelle sera justement la direction que va emprunter la Fed. Et c'est là où on est sur un moment un peu un point de bascule, un point de à la fois de friction et de bascule pour la Fed, puisque comme tu viens de le dire, que ça soit pour l'immobilier ou pour les taux d'emprunt pour les crédits conso, etc. Le fait d'avoir des taux comme ça et notamment les taux directeurs qui restent relativement hauts, eh bien ça impacte très largement le consommateur américain qui vit littéralement à crédit. Nous en Europe, on connaît le crédit et on en a souvent, notamment pour les Français, on va dire un a priori plutôt négatif. On se sent un peu tenu par le callback quand on a un crédit, que ça soit conso, que ça soit immobilier. C'est un peu un passage obligé dans la vie de tous les jours, mais on ne vit pas pour tout, en tout cas. La plupart du temps, on essaie d'éviter de vivre à crédit pour absolument tout. Or, du côté US, voilà, c'est carte de crédit sur carte de crédit. On paie en fin de mois, voire à 3 mois ou beaucoup plus lointain pour les entreprises. Donc, c'est un modèle de fonctionnement où on peut appeler ça la fuite en avant un peu, j'ai envie de dire, d'un point de vue de la consommation. Et c'est peut-être aussi ce qui fait qu'aujourd'hui, l'économie américaine fonctionne aussi bien et en apparence se montre aussi résiliente. C'est que voilà, c'est leur modèle, c'est leur moule de fonctionnement. Et c'est vrai que quand on voit ces taux qui peinent malgré tout à retrouver la voie de la baisse pour du moyen terme, on va dire, ça laisse quand même toujours se poser la question de, souvent je disais dans la quotidienne, qui ment quand on a les taux qui restent hauts, le gold qui est haut, les actions qui sont hautes, Bitcoin qui est venu chercher un ATH à 125, 126, il y a forcément au bout d'un moment quelqu'un qui a tort sur le marché ou quelqu'un qui va perdre derrière. Et c'est vrai que ça a été assez extraordinaire 2025 de la façon dont ça s'est matérialisé tout simplement.
Tu sais, ce que tu dis est vraiment très pertinent. Qui ment? Moi personnellement aujourd'hui, personne ne ment. Aujourd'hui, et je pense que l'or c'est vraiment le meilleur indicateur. En fait, ce que l'on voit, hein, c'est-à-dire des taux d'intérêt élevés du côté des US, mais de l'autre côté aussi un or qui fait que grimper. En fait, c'est un petit peu ce que l'on a dit aussi sur Twitter, c'est-à-dire quoi? On est en train un petit peu d'assister à un changement de paradigme. Les banques centrales étrangères, hein, donc je pense notamment à la Chine, le Kazakhstan, l'Inde, la Russie, bien d'autres encore. Ce qu'ils sont en train de faire, c'est acheter massivement de l'or et de larguer gentiment leurs réserves en dollars. Donc, de l'autre côté, donc en fait, quand tu as cette information-là, tu comprends que les taux 10 ans restent élevés, mais de l'autre côté, tu comprends que l'or et les métaux précieux continuent de grimper. En fait, on est vraiment, je pense que les gens sous-estiment vraiment un petit peu ce qui se passe, mais on est en train d'assister à un système financier qui est en train de muter gentiment. Vers un bloc, enfin en tout cas vers un monde où on a deux gros blocs. On a les États-Unis et ses alliés, hein, donc généralement le Royaume-Uni et le Japon, et de l'autre côté un bloc formé des BRICS. Hein, donc je parle pas encore du Brésil parce que c'est un autre sujet un peu compliqué, mais globalement Russie, Inde et Chine, qui eux sont en train de mettre en place une sorte de triade. Hein, et de créer un bloc économique qui va rivaliser massivement face aux Américains et à ses alliés. Aujourd'hui, encore une fois, hein, je tout ce qui se passe aujourd'hui pour moi, c'est de l'exubérance, mais il n'y a pas grand-chose d'irrationnel pour l'instant quand on creuse un petit peu. La seule chose que moi je trouve irrationnelle, c'est plutôt le comportement des agents économiques. Tu vois, c'est ce que je te disais en début de ce live-là, c'est-à-dire que tu as des marchés qui font que grimper, mais des acteurs économiques qui ne savent pas dans quelle direction devrait aller le marché. On continue de grimper parce que, à défaut d'avoir des news très négatives, bien le marché reste haussier. C'est un petit peu comme ça que ça fonctionne. C'est la phrase que je dis toujours. À nos clients, hein, c'est qu'à défaut, le marché reste haussier. Et c'est exactement ce qu'on est en train de voir aujourd'hui. Donc, maintenant, pour le très court terme, hein, et pour revenir un petit peu à cette histoire d'or, moi, je suis très content que l'or commence un petit peu à dégonfler. Parce que je pense que les agents économiques sont un petit peu en train d'anticiper, enfin, en tout cas, ils essayent un petit peu d'anticiper une sorte de détente entre la Chine et les Américains. Cette détente-là va durer, je pense, comme ce que l'on peut voir dans les informations, c'est-à-dire une petite année, D'accord. Mais derrière, bien évidemment, c'est après que cette détente soit terminée que l'on verra peut-être les conséquences de tout ce qu'on est en train de vivre. Donc, moi, je suis très content que l'or se détende parce que c'est des liquidités qui vont potentiellement nous permettre d'avoir un rallye de fin d'année. Et je pense que c'est ce qui intéresse aussi pas mal de gens qui nous écoutent, hein, c'est-à-dire que moi, pour moi, si vous voulez avoir un rallye de fin d'année, il faut que l'or continue de baisser tranquillement pour que l'on trouve la liquidité nécessaire pour avoir un rallye sur les cryptos et sur les marchés financiers mondiaux. Donc, il faut espérer que cette semaine, Powell ait un discours moins au quiche que d'habitude, parce que je pense que Powell va toujours vouloir un petit peu garder ce ton un peu tempéré, mais de l'autre côté, il faut espérer que cette trêve qui doit se mettre en place entre la Chine et les Américains soit mise en place et soit respectée. Donc pour le court terme, on en est là. Pour le moyen terme, en tout cas par rapport au mandat de Trump, j'ai énormément de mal à imaginer qu'on ne voit pas, et là c'est la partie la moins drôle entre guillemets du live, j'ai énormément de mal à imaginer un marché américain qui continue sur ce rythme-là et qui ne connaît pas moins 30% de baisse un jour. Voilà. C'est mon avis sur ce marché-là, en tout cas pendant le mandat. Le dernier mandat, on a connu évidemment la crise du Covid, mais il y avait eu déjà pas mal d'excès, pas mal de problématiques avant qu'elle n'arrive. Mais aujourd'hui, je pense que l'on va connaître un épisode financier où l'on peut retrouver une baisse des marchés de moins 25, moins 30% minimum. Voilà. Et vraiment grand minimum. Mais je pense que si ça doit arriver, c'est parce que potentiellement les CapEx de l'IA baissent. D'accord? Ou à un moment donné, on arrive potentiellement à une bulle qui commence à devenir insoutenable. Et de l'autre côté, potentiellement aussi, parce que, et tu l'as dit de manière importante, c'est que on arrive peut-être à un moment aussi où le marché de l'emploi commence à montrer des signes de faiblesse très importants. Et parce que ce marché de l'emploi-là, je pense, à terme, va continuer de montrer des signes de faiblesse importants. Mais on n'a pas encore les éléments qui le démontrent. Mais
On est en pleine mutation en plus, hein, on l'a vu ces jours-ci avec Amazon qui est en train de virer 40 000 personnes. Là, on voit les premiers aspects de l'IA slash robotique dans la vraie vie, là, pour le coup, au-delà de la spéculation qu'on peut avoir voilà, sur les chipsets, les fondeurs et tout ce qui est, bon, comme toutes ces méga boîtes que tu as citées tout à l'heure. Donc aujourd'hui, ce qui arrive aujourd'hui à Amazon va se propager à l'ensemble de la chaîne alimentaire derrière. Donc ça aussi, ça laisse se poser pas mal de questions. Je fais tout le petit aparté par rapport à la zone que tu prévoyais tout à l'heure d'une trentaine de pourcents. Admettons que l'on top là pour 2025 autour de 6 800 à 7 000 points pour le S&P. Ça reste, voilà, pour donner des comptes rond, pour vous donner des approximations, notamment pour ceux qui l'écouteront en podcast, ça sera un retour plus ou moins moins de 30% autour de 4 800 points, c'est-à-dire pile poil la zone que l'on a taguée long terme et qui est un énorme support en avril lors de l'annonce des tarifs de Trump. Et on n'est pas très loin de la moyenne mobile à 200 semaines qui aujourd'hui se trouve à 4 930 points. Donc c'est un truc qu'on a vu notamment sur les quotidiennes de la chaîne et qui pourrait tout à fait faire sens s'il y avait quelques problématiques que ce soit. Toujours d'un point de vue purement statistique, et je te rends la parole, c'est moins 10% tous les 18 mois en moyenne pour le S&P 500 et moins 20% et au-delà tous les 3 ans et demi à 4 ans, maximum 6 ans. Mais là, comme on est sur des cycles depuis 2020, puisqu'il y a eu une impression monétaire de folie et que tout le monde, notamment ces nouveaux investisseurs de la vague 2020, sont là pour payer les dips à n'importe quel prix, n'importe quel valo par tout temps. Voilà, on est sur un dynamisme qui surprend de plus en plus les banques d'affaires et tous les fonds, quelque part, en termes d'écart de volatilité. Et aujourd'hui, c'est vrai que, ben voilà, on pourrait se dire que si on prend les statistiques historiques, tous les 18 mois, environ 12 à 18 mois, c'est du moins 10%. Tous les 3-4 ans, c'est du moins 20. Et tous les 3-4 ans, ça peut être du moins 20 et plus. Donc voilà, je vous donne les statistiques et je te rends le micro.
oui, non, mais les statistiques sont vraiment, elles sont ce qu'elles sont, hein, mais encore une fois, je pense que les cycles, Et je pense qu'on a eu la preuve et le Bitcoin le démontre un petit peu, hein, c'est-à-dire que les cycles que l'on a pu voir il y a quelques années ne sont pas nécessairement respectés. Et c'est d'ailleurs, je pense, aussi le cas probablement pour Bitcoin, hein. Il y a toujours des cycles. L'économie et la finance ont toujours été faits de cycles, mais il n'y a jamais on va dire, de période prédéfinie et qu'il faut absolument respecter. Maintenant, je pense qu'on est toujours dans un cycle qui, pour moi, peut encore s'étendre. Par contre, ce cycle-là, pour moi, et c'est un petit peu ce que j'avais dit dans un tweet également, c'est-à-dire que pour moi, tout ça va se terminer par un choc de liquidité ou un choc de crédit. L'exemple typique que je ressors, et je pense vraiment qu'il faut se poser des questions, c'est que sur l'IA, on nous demande au début de ce rallye que l'on voit sur l'IA, énormément de choses ont été un petit peu, on va dire, financées par le cash. D'accord? Donc c'était parfaitement justifiable, il n'y avait aucun problème là-dessus, et tout le monde était bien conscient de l'importance du sujet que représente encore l'IA aujourd'hui. Mais aujourd'hui, on se rend compte que ces sociétés-là ont besoin de financement. Donc, c'est un petit peu moi, ce qui me dérange un petit peu du côté d'OpenAI, hein, c'est-à-dire qu'on nous affiche des chiffres stratosphériques, on nous affiche des business plans qui sont complètement lunaires, mais est-ce que c'est réalisable? À mes yeux, non. En tout cas, du côté d'OpenAI, je ne parle pas forcément des autres acteurs. Mais donc, le vrai pari, et c'est un petit peu aussi moi ce qui me fait peur quand je vois Oracle et quand je vois OpenAI et quand je vois CoreWeave et enfin en tout cas un petit peu tout l'environnement, tout l'écosystème autour d'NVIDIA et d'OpenAI, c'est que on nous annonce des choses, mais financièrement, énergétiquement, temporellement, ce n'est pas possible. Donc, à un moment donné, ces personnes-là qui auront contracté des crédits immenses vont devoir rendre des comptes. Et c'est peut-être une des choses, je pense, que beaucoup de gens n'anticipent pas. Pour moi, c'est un sujet qui est très important, que beaucoup de gens ne remarquent pas. Mais il y a des chiffres qui sont annoncés, il y a des montants qui sont empruntés. Il y a des données d'un point de vue énergétique qui sont ressorties. Enfin, je pense notamment à OpenAI qui annonce 250 gigawatts pour 2030 ou 2033, alors que c'est l'équivalent de l'énergie, enfin en tout cas de l'énergie du côté de l'Inde, hein, rien que l'Inde. Hein. Donc on est sur des éléments et des choses qui peuvent faire penser qu'on est vraiment dans une bulle. En tout cas, encore une fois, je ne parle pas de la tech, je parle uniquement d'un point de vue financier. Donc c'est des éléments qu'il va falloir garder en tête. Je pense que les deux trucs les plus importants à regarder, ça va être comment l'aspect financier de l'IA va évoluer. Ça, c'est le premier truc. Et de l'autre côté, voir un petit peu l'impact des politiques de Trump sur l'économie américaine et vraiment, du coup, véritablement la macro. Américaine. C'est moi tout ce qui m'importe pour 2026. Et en tout cas, d'ailleurs, jusqu'à la fin du mandat de Trump. Mais je me répète, hein, j'ai du mal. Enfin, je ne pense pas qu'on ait atteint le top, tu vois. Moi, quand on a atteint les 6500, 6600, pour moi, si on pétait cette zone-là, les 7000, c'était prophétique et c'est un petit peu ce qui est en train de se passer, hein. On n'est pas loin des 7000 points. Par contre, rien ne nous empêche d'aller beaucoup plus haut. Parce qu'il y a encore des catalyseurs qui n'ont pas été sortis, qui n'ont pas été déclenchés pour donner un nouveau souffle au marché. Donc c'est et il y a la macroéconomie américaine. Donc c'est un petit peu vraiment compliqué. C'est ce que je n'arrête pas d'expliquer. Pour moi, la difficulté va augmenter, mais à un niveau très important en 2026. Je pense que ceux qui suivent, bah en tout cas ceux qui suivent notre discussion, doivent se rendre compte que il faut avoir un minimum de cash dans son portefeuille, que et c'est un petit peu aussi, on va dire l'importance de ce live-là, c'est-à-dire que vous avez probablement des belles performances sur vos portefeuilles. À un moment donné, il faut que une bonne partie de cette performance-là soit convertie en cash. pour que vous puissiez vous satisfaire de la magnifique année que vous avez potentiellement pu faire en aujourd'hui. Donc, n'hésitez pas à, en tout cas, vous payer, à vous congratuler et à vous dire que et être bien conscient que ce qui nous attend l'année prochaine va être très difficile. Je pense vraiment que beaucoup de gens sous-estiment cela, mais partez du principe que même les institutionnels ne savent pas où le marché doit aller. Et c'est pour ça qu'ils se couvrent autant. Donc, si les institutionnels ne savent pas ça, il va être difficile pour nous, particuliers ou même experts des marchés, de savoir où ira le marché. Il y a beaucoup d'éléments contradictoires, il y a beaucoup de facteurs qui peuvent influer sur la direction des marchés par la suite. Donc, la prudence doit être de mise en 2026. Avoir du cash n'est pas une mauvaise chose. Et vraiment, 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 réorganiser votre portefeuille, je pense que c'est la chose que vous devez vous dire, pour préparer 2026.
Donc, on espère que toutes ces informations vous auront permis d'y voir un petit peu plus clair et on refera le point dans 3 mois avec Fineco pour voir bien début 2026 comment ça se passe du côté des marchés, de la macro et si l'administration Trump ne nous a pas fait de nouveau des mouvements un peu erratiques pour rester poli. Et donc, c'était bien cool de pouvoir échanger avec toi. Comme vous l'aurez compris, beaucoup d'enjeux pour 2026. Il va falloir jouer la carte de la prudence et surtout être à même d'avoir ce dynamisme que requiert aujourd'hui l'ensemble des marchés financiers pour ne pas se retrouver cloué lorsque la mer viendra à se retirer et que, comme disait Warren Buffett ou son compère, je ne sais plus, quand la mer se retire, on voit qui nageait à poil et c'est ce qui risque de se passer pour toute cette génération de nouveaux investisseurs de 2020 qui n'ont connu quasi que du marché haussier. Bon, modulo 2022 qui était plus compliqué comme année, mais globalement, ça s'est à chaque fois repris très vite. Donc, attention aussi à ce que disaient les JP Morgan et compagnie, que les 5 années 2020-2025 n'est pas un miroir un peu maléfique de 2025 à 2030 avec des performances qui seront vraiment moindres. Merci à tous d'avoir été là. Merci Fineco. N'hésitez pas, petit pouce, petit commentaire et vous pouvez retrouver donc les réseaux sociaux sur X pour Fineco, leur site web et ainsi que leur Substack. N'hésitez pas à aller les soutenir puisque ça en fait un des comptes aujourd'hui qui est les plus intéressants pour la macro et la finance au sens large du terme. On se retrouve très prochainement pour, comme d'habitude, la quotidienne et on se retrouvera avec Fineco donc dans environ 3 mois pour faire le petit point macro et on se retrouvera sur ce même rythme par la suite courant 2026. Très bonne journée et à plus. Ciao, ciao.